France Info.
Bonsoir à tous. On va traverser les écrans ce soir. On va regarder qui est derrière les plateformes que nous utilisons tous les jours. Les Amazon, les Facebook, les Google, les Twitter et beaucoup d'autres. Bonsoir Antonio Casilli.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, vous publiez En attendant les robots, une enquête sur le travail du clic. Car derrière la technologie, derrière les algorithmes, derrière la fameuse intelligence artificielle, il y a, ou il y a encore, des hommes et des femmes. On ne les voit pas, mais ils sont très nombreux. Vous les appelez les travailleurs du clic, les tâcherons et même les galériens du clic. C'est un mot très fort, galérien.
Tout à fait. Et en effet, c'est un mot qui transmet l'effet d'aliénation, parfois, qui est associé à ce type de travail. Figurez-vous que pour entraîner, c'est-à-dire pour préparer, pour calibrer les intelligences artificielles, pour qu'elles réalisent les tâches qu'elles promettent, par exemple reconnaître ou recommander ou aider notre décision, il faut que quelqu'un enseigne à ces machines à travailler. Et donc, finalement, ce quelqu'un, c'est les poinçonneurs de l'IA, c'est les gens qui se cachent
l'IA
derrière.
Comme intelligence artificielle.
Tout à fait, tout à fait.
Le poinçonneur des lilas modernes pour vous dans ce monde digital, Antonio Casilli.
Oui. Donc, c'est des personnes qui, chaque jour, doivent, par exemple, traiter des centaines et parfois même des milliers de petites tâches. Donc, par exemple, reconnaître des chansons pour organiser des playlists ou alors retranscrire des tickets de caisse ou encore interpréter ce que d'autres personnes ont dit à, que sais-je, aux enceintes connectées. Quand vous parlez aux enceintes connectées, vous demandez une pizza ou vous demandez l'adresse du médecin le plus proche. Donc derrière, il y a toujours des personnes qui aident.
Attendez, toujours ? C'est la machine qui fait ça, non ?
Alors, c'est une excellente question.
Et de plus en plus ?
Alors, c'est la machine qui fait ça de plus en plus, mais pour que la machine travaille de plus en plus, on a besoin de plus en plus de personnes qui, par exemple, vérifient, testent ce que la machine a fait. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui écoutent aussi ce que nous disons à ces mêmes machines.
Qui sont ces travailleurs du clic ? Où sont-ils et comment travaillent-ils, Antonio Casilli ?
Alors d'abord, c'est des travailleuses et des travailleurs. Parce que dans plusieurs cas, plusieurs pays, parce qu'ils sont partout dans le monde, c'est souvent des femmes qui, depuis chez elles ou depuis chez eux, s'il s'agit évidemment d'hommes, se connectent à des plateformes et traitent donc des micro-tâches chaque jour. Et sont payées très peu.
Donc c'est-à-dire
parfois, ils sont payés un centime, voire moins si ces personnes sont installées dans des pays à faible revenu.
Centime pour faire quoi, par exemple ? Centimes pour faire quoi ? Quel type de tâche ?
Regarder des images, par exemple, et reconnaître si dans ces images, il y a des arbres ou il y a des véhicules. Et cela sert normalement pour entraîner les véhicules autonomes. Donc, quand on parle de voitures sans chauffeur, en réalité, derrière, il y a des micro-tâcherons qui, à la place du chauffeur, reconnaissent des arbres ou des panneaux de signalétique ou d'autres véhicules. Et cela est un travail nécessaire. Et pour ce faire, donc, ils sont rémunérés très, très, très faiblement. Quand je parle, évidemment, de pays comme la France, vous avez des personnes qui, pour chaque tâche, arrivent à être rémunérées à la hauteur de quelques dizaines de centimes, ce qui, parfois, arrive même à faire plus ou moins le SMIC horaire, parfois beaucoup moins, selon la disponibilité et l'offre de ces micro-tâches. Mais si on se tourne du côté, par exemple, des pays émergents ou des pays en voie de développement, comme l'Indonésie, comme la Malaisie, comme l'Inde ou la Chine, là on trouve des personnes qui travaillent pour beaucoup moins que ça. Au Pakistan par exemple, il y a des personnes qui sont des tâcherons du clic, qui sont payées à la hauteur de 0,0001 centime.
Alors ces gens peuvent travailler individuellement, chacun dans leur coin, ils peuvent aussi constituer des fermes à clic, des usines à clic. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit de structures comme par exemple des bureaux ou des commerces qui ont pignon sur rue et dans lesquels vous avez des dizaines, des centaines de postes s'il s'agit de PC et parfois il s'agit même de fermes à clic qui sont basées sur des mobiles. Donc vous avez des milliers de smartphones et des personnes qui passent d'un smartphone à l'autre ou d'un poste PC à l'autre pour cliquer presque au hasard. Je dis presque au hasard, c'est-à-dire qu'ils ne portent pas, disons, un intérêt particulier, disons, aux vidéos, par exemple, qu'ils visionnent, ou aux fichiers qu'ils téléchargent, ou aux likes qu'ils laissent sur Facebook, mais sont payés, justement, pour le faire. Et donc, ceci constitue leur travail.
C'est un travail essentiel ou un travail de complément pour arrondir les fins de mois pour la plupart de ces gens aujourd'hui ?
Si nous regardons les pays du Nord, il s'agit souvent d'un complément de revenu. Mais pour les pays du Sud global, il s'agit d'un revenu primaire. Pensez à un pays comme le Madagascar, dans lequel le salaire moyen est de 40 euros par mois ou un peu plus. Et là, si vous arrivez à faire 30-40 euros en réalisant, en effectuant des micro-tâches, en effet, vous avez un autre salaire.
Combien sont-ils dans le monde à travailler plus ou moins pour ces plateformes, pour nos plateformes?
Excellente question. Il y a plusieurs estimations. Selon la Banque mondiale, dans un rapport de 2015, on parlait de à peine quelques millions de micro-tâcherons, moins de 10 millions, mais en réalité...
Millions ?
Oui, mais en réalité, si on regarde les effectifs déclarés par ces mêmes plateformes, on dépasse allègrement les 100 millions de personnes, surtout à cause de grandes plateformes de micro-tâches chinoises, comme Zhubajie ou TaskSense, qui ont chacune 15-12 millions de travailleurs dans leurs effectifs.
La technologie évolue, est-ce que les machines, les robots vont un jour les remplacer? C'est la question centrale, c'est une question qui existe depuis des dizaines d'années, presque des siècles. Là, elle est aiguë avec l'intelligence artificielle. Est-ce que ce remplacement va avoir lieu?
Ah, finalement, moi, j'ai plutôt une tendance à miser sur un non-remplacement. Donc, le remplacement n'aura pas lieu dans la mesure où vous aurez toujours besoin de personnes qui vérifient ce que les machines ont fait. Donc, des personnes qui passent derrière, des personnes qui réalisent un travail humble, invisible ou invisibilisé, mais qui finalement...
Mais c'est un travail de très mauvaise qualité aussi qui est en train de se développer. C'est ça qui est derrière.
On est d'accord.
À côté de ces gens très qualifiés, très recherchés, très bien payés, qui travaillent aussi pour les plateformes. Et on en parle.
Il y a en effet une polarisation du travail produit par ces solutions technologiques intelligentes. D'un côté, des data scientists, des ingénieurs, des sublimes du numérique. De l'autre côté, par contre, des travailleurs du digital. Et j'insiste sur le fait qu'il y a une différence entre numérique et digital. Numérique renvoie au numerus, donc à quelque chose un processus mathématique. Alors que digital renvoie vraiment à un travail du doigt, un travail du clic et un travail pour l'instant nécessaire.
Est-ce que c'est pas une vision désespérante et désespérée que vous êtes en train de mettre en avant, Antonio Casilli?
Au contraire, c'est une manière d'insister sur le besoin de reconnaissance que ces travailleurs ont et sur les pistes qui nous permettront de sortir de cette situation.
Antonio Casilli, merci à vous. Un livre passionnant, une enquête passionnante. En attendant les robots, le livre paraît aux éditions du Seuil.